VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Cour pénale internationale de la Haye, CPI. Les procureurs du tribunal ont déclaré ce vendredi être prêts à accepter la mise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté il y a plus de 2 semaines, à condition qu'il lui soit interdit de rentrer en Côte d'Ivoire. Jugé pour des accusations de crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes ivoiriens, ont été acquittés le 15 janvier en première instance. Depuis cet acquittement, le maintien en détention des deux hommes est au cœur des débats devant la CPI. Les juges doivent décider soit de maintenir les deux ex-responsables ivoiriens en détention jusqu'à un éventuel procès en appel de leur acquittement, soit de leur accorder une liberté conditionnelle ou inconditionnelle. La défense et l'accusation sont tombés d'accord aujourd'hui pour que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé recouvrent la liberté en attendant un éventuel procès en appel. Mais les deux parties s'opposent sur un point crucial. L'accusation exige que cette mise en liberté soit soumise à de strictes conditions. Les procureurs craignent que messieurs Gbagbo et Blé Goudé ne se présentent pas devant la cour dans le cadre d'un procès en appel. Et ils souhaitent que les deux hommes soient remis à la garde d'un pays proche des Pays-Bas où siège la CPI. Toujours concernant la Côte d'Ivoire, retour au pays pour une 60aine d'Ivoiriens qui avaient trouvé refuge au Ghana à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011. Ces réfugiés ont regagné Abidjan jeudi. Ils sont tous des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo. À la chute de ce dernier en avril 2011, ils avaient été contraints de fuir la Côte d'Ivoire pour le Ghana voisin. Leur retour est facilité par le gouvernement ivoirien avec la collaboration du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mohamed Askia Touré est représentant du HCR en Côte d'Ivoire.
À tout un ensemble de mécanismes qui ont été mis en place pour faciliter le rapatriement de ces réfugiés. Tout d'abord, il y a un accord tripartite, un accord juridique, un cadre juridique dans lequel l'État de Côte d'Ivoire s'engage à protéger et à respecter le retour de ces réfugiés. Le pays hôte permet aussi à ces réfugiés de retourner, bien entendu. Tout cela se fait sous les auspices du HCR, à savoir que la protection est continue à être donnée à ces réfugiés-là.
Mohamed Askia Touré, représentant du HCR en Côte d'Ivoire. Afrique de l'Ouest toujours, en Guinée-Bissau, les journalistes des médias publics sont en grève pour exiger le paiement de leur salaire et la fin de ce qu'ils appellent la censure. La campagne pour les législatives du mois prochain doit commencer le 16 février. Eki Abadou.
Cette grève entamée lundi s'est poursuivie hier et concerne le journal gouvernemental Nopincha, la radio-télévision publique et l'agence nationale de presse. Le syndicat national des journalistes et techniciens de la communication exige le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire plus un reliquat de 4 mois après l'augmentation accordée en septembre ainsi que de meilleures conditions de travail. À ces revendications salariales s'ajoutent celles des journalistes de la télévision publique qui réclament la fin du favoritisme accordé à un parti, a déclaré Domingos Thiago Gomes, un des responsables. Il a dénoncé une couverture en faveur des alliés du président José Mario Vaz et du Parti de la Rénovation Sociale, dont le ministre de la Communication Sociale est membre. La campagne pour les législatives du 10 mars doit démarrer le 16 février. Ces élections doivent permettre de sortir de la crise que traverse le pays depuis août 2015.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, la campagne présidentielle bat son plein. L'ancien vice-président Atiku Abubakar, candidat du PDP, principal parti d'opposition dans le pays, face au président Muhammadu Buhari qui brigue un second mandat, a laissé entendre qu'il accorderait une amnistie à ceux qui vont accepter de rendre les fonds publics détournés. Une proposition qui fait des vagues dans le pays. Atiku Abubakar a également mentionné la lenteur du système judiciaire nigérian comme frein à la lutte contre la corruption. Pour parler des enjeux de cette campagne, John Lindon a joint le professeur Amosu Tondonu de l'Université de l'État de Lagos au Nigeria.
D'abord, il y a l'enjeu économique. Quoi qu'on en dise, il y a de plus en plus de Nigériens qui n'arrivent même plus à manger comme il faut. Et que la morosité, ça a gagné pratiquement tout le pays. quand il est arrivé au pouvoir, tout le monde croyait que Buhari allait s'adresser aux questions les plus importantes, d'abord le volet économique, mais on constate que les choses ne sont pas aussi formidables qu'on l'avait promis. Et puis, il y a la corruption. La corruption qui se fait coïncider à deux niveaux. Parce que quand vous passez du côté du pouvoir, alors vous n'êtes plus corrompu. Alors qu'on sait que ceux qui sont actuellement au pouvoir, c'est un mélange de ceux qui étaient de l'autre côté, c'est-à-dire de l'ancien parti au pouvoir, le PDP, ensuite le nouveau parti au gouvernement, c'est-à-dire l'AFC.
Vous parliez tout à l'heure de la corruption. Justement, le principal challenger de Muhammadu Buhari, donc Atiku Abubakar, propose une amnistie à tous ceux qui pourraient être accusés de corruption et qui peuvent rembourser ce qu'ils ont volé. Qu'est-ce que vous pensez de cette promesse?
Franchement, moi, je ne vois pas comment on pourrait récupérer tout l'argent que ces gens-là ont engrangé. Il est vrai qu'il y a eu certaines condamnations, mais dans l'ensemble, la grande majorité de ceux qui ont volé de l'argent depuis 20-30 dernières années, ils sont là et ils ne leur arrivent rien du tout. La preuve, c'est que même les jeunes commencent à se persuader que la corruption, c'est normal, c'est même légitime. Et dans ces conditions, enfin, moi, je ne vois pas pourquoi on aurait l'idée de voter pour ça. Que ce soit pour Abubakar, Atiku ou bien l'actuel chef.
Alors, vous semblez dire que Muhammadu Buhari a fait des promesses qu'il n'a visiblement pas tenues, selon vous. Qu'est-ce que Atiku Abubakar, lui, peut apporter de plus et qui puisse lui permettre de remporter cette élection?
Non, moi j'ai essayé d'étudier son programme, mais le programme, franchement, il y a beaucoup de promesses qui ne sauraient jamais tenir. Parce que, d'une part, il faut s'entourer de ceux qui n'ont pas une très bonne réputation et que même lui aussi, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui clochent. Donc, pour un pays qui a besoin de se tourner résolument vers l'avenir, moi je ne vois pas comment ces gens-là seraient appelés à diriger notre pauvre pays.
Le professeur Amosu Tondonou de l'Université de l'État de Lagos au Nigeria. Cameroun, les manifestations de samedi dans le pays, à la suite desquelles le principal opposant Maurice Kamto a été arrêté, ont donné lieu à un usage disproportionné de la force par les forces de sécurité. C'est ce qu'estime l'Union européenne dans un communiqué. Depuis samedi, 200 personnes ont été interpellées selon le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont Maurice Kamto, le leader du parti, appréhendé lundi soir, et une majorité de cadres de cette formation politique. Deux journalistes camerounais ont aussi été interpellés lundi soir en marge de l'arrestation de M. Kamto après avoir été confondus avec des activistes politiques dans l'exercice de leurs fonctions, selon le syndicat des journalistes camerounais.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Tchad, l'accord entre les autorités et les syndicats de la fonction publique, signé fin octobre et qui limite la baisse des primes et indemnités des fonctionnaires, est finalement entré en vigueur en janvier. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Les agents de l'État ont commencé à percevoir leur salaire négocié en octobre, a annoncé Brahim Ben Saïd, secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Il faut reconnaître que le gouvernement a respecté ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sociaux, a renchéri Mohamed Nasraddine Moussa, porte-parole adjoint de la plateforme des syndicats qui a mené les négociations. Il précise qu'il s'agit d'une avancée significative qui, selon lui, contribuera à amener les fonctionnaires à rétablir la confiance perdue envers le gouvernement. L'annonce par le gouvernement de son intention de baisser les primes et indemnités de 50% faite en janvier 2018 avait débouché sur 10 mois de grogne sociale avec 5 mois de grève de la fonction publique. En décembre, la France a annoncé un prêt de 40 millions d'euros pour payer les salaires et pensions. Le pays souffre depuis 2015 de la baisse des cours du pétrole et avait mis en place des mesures d'austérité sévères. À la suite d'un programme avec le FMI pour un financement de 312,1 millions de dollars sur 3 ans, l'État tchadien devait réduire la masse salariale.
Tchad, toujours, un nouveau ministre du pétrole a été nommé jeudi dans le pays. Le troisième en 10 jours a occupé ce portefeuille, selon un décret présidentiel lu à la télévision d'État ce vendredi. Mahamat Amin Koua, qui était secrétaire général adjoint du gouvernement, a été nommé ministre du pétrole en remplacement de Aziza Al-Bashir, d'après ce décret signé du président tchadien Idriss Déby Itno. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.